Aujourd'hui, à Rencontre, Maurice Bellet et la recherche du sens de la vie. Maurice Bellet est réputé pour son sens critique. Il ne cesse de chercher la voie vraiment initiatique. Il vient de publier « La voie » aux éditions du Seuil, où il cherche le chemin qui arrache l'homme à son désespoir. Maurice Bellet a aussi publié « Le Dieu pervers » chez Desclée de Brouwer.
Maurice Bellet, dans un ouvrage que vous avez publié intitulé « Le Dieu pervers », vous dites, et ça peut m'apparaître un peu étonnant, vous dites « Le Christ est le thérapeute ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce moment-là de voir dans le Christ un super Freud, et comme on a fait de lui à un moment donné un superstar, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que le Christ est un thérapeute?
D'abord, le thérapeute, c'est une figure possible, comme il y en a d'autres. À propos du Christ, car il est aussi le roi, le serviteur, le prêtre, etc.
Ça, ce sont des images quand même qu'on trouve dans...
Ah, mais celles du thérapeute aussi. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus dit ça de sa propre mission. Et puis, alors, il y a quand même quelque chose qui occupe une place considérable dans les évangiles, c'est les guérisons. Ce qu'on appelle
les miracles.
Les miracles. Et alors, il y a eu toute une époque où on a trouvé que ces miracles étaient vraiment encombrants, parce que du côté de la science, ça faisait problème, etc. Et assez facilement, on en aurait bien débarrassé l'évangile, enfin, disons, aux mentalités de l'époque, etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens pour lesquels la question serait presque retournée, c'est-à-dire que, bon, il y a des psychothérapies qui arrivent effectivement à guérir même des troubles considérés comme organiques ou même organiques, donc... Mais la question, je ne la pose pas à ce niveau-là, je la pose au niveau de la signification. Ben, Jésus commence comment? Matthieu dit, il sortit pour annoncer, enseigner, guérir. Et le fait qu'il guérisse, et qu'il commence par guérir, ça éclaire tout le reste. Vous comprenez, dire, on vous a dit, tu ne tueras pas, et moi je vous dis, tu ne te mettras pas en colère contre ton frère, ça n'a pas le même sens si on commence par dire ça, ou si on dit ça après avoir guéri, c'est-à-dire rendu à leur intégrité physique ou mentale des dizaines de gens. Que la parole du Christ soit la parole d'un homme qui soulage les souffrants, qui réintègre les exclus, qui purifie les lépreux étant l'équivalent, je ne sais pas quoi, moi, de ce qu'est aujourd'hui la maladie honteuse, sous quelque forme que ce soit. C'est pas indifférent. Alors, l'idée que j'ai, c'est que cette thérapie qui est manifeste au niveau des guérisons, on peut la comprendre comme éclairant tout ce que fait le Christ. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le Christ est soin. L'agir du Christ, l'agir évangélique est soin. C'est-à-dire, il est ce qui restitue l'homme à lui-même, à sa vie, ce qui le rend à lui-même, ce qui fait que sa vie lui est enfin donnée, pour qu'ils vivent. Bon, je sais que la vie est une nation ambiguë, mais précisément là, elle prend de la force. Hein. Quand vous dites à un paralytique, n'est-ce pas, comme Jésus en a rencontré, ou à un lépreux, que maintenant on va lui rendre une vie pleine et entière, il comprend très bien ce que ça veut dire. Ça a un sens très précis, ça veut dire être débarrassé de ce qui pourrit sa chair, ou pouvoir marcher.
Si je vous disais... une réaction un peu bête, mais enfin...
Souvent les meilleurs.
Merci. dire que le Christ est thérapeute, ça, ou bien ça me concerne, et je dis que je suis malade, ou je dis que je ne suis pas malade, et ça ne me concerne pas.
C'est une figure, c'est-à-dire que le percevoir sous ce mode peut m'éclairer à certains moments ou sous certains rapports. Ça n'a rien d'obligatoire ou de contraignant. Enfin, j'ai envie de vous dire, si ça ne vous sert à rien, hein, de percevoir le Christ sous la figure du thérapeute, pour l'amour de Dieu, laissez-la. Prenez-en une autre, prenez un autre chemin. Chacun son chemin.
Nous revenons
le Nouveau Testament donne toutes sortes de chemins possibles. c'est un certain système culturel qui a voulu que le chemin soit le même pour tout le monde. Et la voie, oui. Que la voie soit la même pour tout le monde.
La voie est différente pour chacun, mais malgré tout, il n'y en a qu'une.
Oui.
Oui.
Mais, oui.
Oui.
Mais il faut percevoir que cette apparente contradiction n'en est pas une. Il n'y a qu'une voie. C'est pourquoi chacun a la sienne absolument qui est irréductible et singulière. C'est-à-dire qu'il y a la voix, mais elle est sans voix, selon la formule que je me suis risqué à dire.
Oui, dans ce livre, La Voix, qui m'apparaît presque comme un poème zen. Ça vous étonne que je vous dise ça?
Je ne sais pas si ça m'étonne, mais je ne connais rien.
Au zen.
Au zen. Mm-hmm.
Alors,
ça m'a déjà été dit.
Ça vous a été dit. Oui. Mais pourtant... Vous êtes théologien. Enfin, pour une part, vous travaillez dans des cadres institutionnels. Vous êtes professeur à la faculté de théologie. Vous travaillez dans les cadres d'une revue qui s'appelle Christus, qui est une revue de spiritualité, etc. Or, quand vous me parlez de la façon dont vous venez de me parler, c'est comme si je pouvais croire que finalement, les dogmes, que ces vérités qui nous apparaissent stables, immuables, fermes, sont au fond des choses avec lesquelles on peut en prendre un peu à son gré.
Vous savez, je crois que beaucoup de choses chrétiennes des époques récentes sont commandées par une problématique binaire. Conservateur, progressiste,
droite-gauche, etc.
Avec cette alternative, ou bien vous êtes dogmatique et disciplinaire, c'est-à-dire vous croyez aux formules et vous croyez aux règles et vous les observez si possible. Mais le plus important, c'est de les admettre. Les observer, on peut encore tolérer que vous transgressiez, mais si vous les mettez en cause, ça ne va pas du tout. Ou bien alors, vous êtes un subjectiviste, un laxiste, vous croyez n'importe quoi et finalement vous vous retrouvez dans le grand no man's land des ex-chrétiens. L'un des objectifs que je poursuis, pas seulement en écrivant, mais dans ce dont ce que j'écris témoigne ou donne la trace, c'est de sortir de cette alternative. Il y a une troisième voie. Il y a une manière d'être où, alors bon, je sais le paradoxe, mais délibérément j'y vais, on est beaucoup plus exigeant en matière de vérité que dans la simple correction doctrinale, et on est beaucoup plus exigeant en matière de liberté que dans le laisser-aller de l'opinion ou de la permissivité. Les deux. Ça, c'est le problème de l'opposition à quatre termes, qui est un problème très évangélique.
À quatre termes.
Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, la puissance et la faiblesse. Il y a une manière d'être puissant et d'être faible selon le monde, et il y a une autre puissance. Mais cette autre puissance prend souvent l'apparence de la faiblesse dans le monde. C'est pour ça qu'on peut vous dire, ne soyez pas parmi les forts, c'est-à-dire parmi les dominateurs, les cruels, les féroces, soyez parmi les faibles. Mais attention, être faible au sens évangélique, c'est avoir une puissance qui est finalement plus puissante que la force des forts.
Est-ce qu'on ne tombe pas dans la perversion, finalement?
Non, la perversion.
C'est-à-dire donc une espèce d'ambiguïté totale où on se fait faible, on se fait servir, enfin, c'est la dialectique d'Hegel, où on se fait esclave pour devenir maître, etc. Non,
c'est autre chose. Précisément parce que la puissance dont je parle, enfin, la puissance dont parle beaucoup le Nouveau Testament, le Nouveau Testament parle beaucoup de la puissance, y compris dans Paul, par exemple. Elle n'est pas du même ordre, n'est-ce pas? De même que, par exemple, la liberté de la voix. La voix est sans voix, c'est-à-dire, la voix, c'est en un sens absolument la mienne. Et d'une certaine façon, dans une insécurité indépassable, cette liberté, ce n'est pas simplement le contraire d'une rigidité dogmatique, c'est un autre lieu. Et où on a besoin d'une assurance très profonde et de quelque chose qui est de l'ordre de la vérité et qui est en un sens inentamable, mais qui n'est pas une espèce de bloc rigide comme l'imagine assez facilement l'homme doctrinaire, qui croit que la vérité, c'est ses formules. Et la preuve que la vérité est plus exigeante que ça, justement, elle se rencontre à propos du Dieu pervers. C'est qu'on peut rencontrer des gens qui sont, si vous voulez, au niveau des formules correctes et qui véhiculent dans des formules correctes et dans des comportements extérieurement moraux quelque chose de mortifère. Et c'est ça, un des grands scandales. Et ça peut être très destructeur de ce qui s'appelle, christianisme, comme ça, à l'extérieur.
Mais je vais reposer ma question d'une façon peut-être plus agressive. Vous êtes théologien. Vous enseignez dans une... Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des théologiens.
Vous savez, je suis un...
Bon. Mais vous êtes théologien, vous êtes dans une faculté de théologie catholique qui relève, j'imagine, quelque part, par une voix quelconque, de la grande autorité qui est à Rome. Alors, le discours que vous tenez, comment se situe-t-il dans cette Église-là?
C'est un discours qui n'est pas du tout liquidateur. Et probablement que ça a de l'importance. Enfin, c'est stupide ce que je dis. Ça a évidemment beaucoup d'importance. C'est-à-dire que mon propos n'est pas du tout doté de la doctrine traditionnelle ou de la morale traditionnelle, les choses qui nous gêneraient pour que nous soyons plus à l'aise dans le monde contemporain. En un certain sens, ça serait presque l'inverse. Ça serait de travailler dans la situation qui est la mienne, et avec les nécessités et les contraintes que j'y ressens, pour que ce qui s'est dit ou qui a cru se dire dans certaines formulations se retrouve dans toute sa force. Ce n'est pas du tout une perspective d'arrangement, d'amenuisement, d'adoucissement de l'exigence chrétienne. C'est le contraire. Seulement, il se trouve que ma conviction profonde, c'est que le contraire coïncide avec ce que j'ai évoqué devant vous de manière, en effet, forcément un peu vague, un peu floue, parce que ça demande ou bien d'être un très grand poète et prophète, ou alors de longues explications. Ça va du côté de ce qui donne à l'être humain la vie. Finalement, il n'y a qu'une exigence dans le christianisme. Il n'y a qu'une réalité dans le christianisme. Ce que le Nouveau Testament nomme « agapé ». Bon, ce que j'ai essayé d'évoquer par le mot « haute tendresse ». Paul dit que la foi passera, que l'espérance passera. Il n'y a que ça qui est la réalité. Il n'y a que ça qui est la réalité. Alors, tout est moyen par rapport à ça. Et le reproche qu'on peut faire peut-être à certaines habitudes ou certaines formes de l'Église telle qu'en Occident elle s'est cristallisée, c'est de ne pas être assez rigoureux.
Mais justement, votre mot « haute tendresse », sur lequel vous êtes revenu quelques fois, je vous le dis carrément, il me gêne. Parce que dans la tendresse, il y a quelque chose de tiède. Et il me semble, moi, au contraire, que l'Évangile et que l'amour dont le Christ nous parle est un amour violent.
Tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai mis quand même « haute tendresse » pour essayer de compenser ça. Mais quel autre mot? Vous en avez un à proposer? Charité, amour, direction, fraternité? Dans tendresse, il y a quand même... quelque chose qui est de l'ordre de la générosité, du don, du lait qui coule. Enfin. Et je crois que c'est vrai, ça c'est important. Ou même du sang qui coule. Hein. C'est très important cet aspect-là. Haute tendresse. Et j'ai dit que cette tendresse, elle est dure comme le diamant.
Hein. Dans la tendresse aussi, il y a quelque chose de charnel.
Ah certainement. Alors là, très bien, oui.
Oui. Ça ne vous gêne pas?
J'espère que non, tout de même.
Comme prêtre.
Enfin... Et le verbe s'est fait chair.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, concrètement?
Ça veut dire que ce qui est en cause dans notre existence d'être humain, c'est tout notre être homme qui est d'abord un. La distinction du corps et de l'âme, c'est très intéressant, c'est très important, ça a une fonction, tout ce que vous voulez. C'est second par rapport à l'unité de l'être homme. Ce qui est premier, par exemple, dans le Christ, c'est le Christ. Comme être homme, et c'est pour ça que ce nom propre nous tient à cœur, c'est parce qu'il nous désigne chacun dans notre nom propre.
Mais vous savez très bien, Maurice Bellet, qu'en disant le verbe s'est fait chair, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont dit, ben voilà, il faut s'occuper des réalités temporelles. Finalement, en insistant sur le Dieu qui se fait chair, on oublie le fait que le Christ est venu aussi pour nous ramener vers le Père.
Mais c'est la même chose. Le Christ, le verbe s'est fait chair, hein, et... Le logos, pour employer le mot grec, est à peu près intraduisible. Enfin, c'est la lumière originelle, enfin, qui était en Dieu, qui est Dieu, devient chair, c'est-à-dire vie humaine. Ça ne veut pas dire corps au sens de la médecine, hein, chair. Ça veut dire être humain tout entier. Hein. C'est la même chose, c'est déjà la même chose que le retour de l'humanité au Père. Nous avons tout coupé en petites rondelles comme ça, hein. Alors on dit, ah ben s'ils s'occupent de la chair, alors d'abord ils sont charnels, oh. Et puis ils s'occupent du temporel, ils oublient Dieu. Mais enfin, si Dieu n'est pas le Dieu de tout l'être homme, ça n'est certainement, enfin c'est peut-être un Dieu qui peut fonctionner dans telle ou telle philosophie, c'est pas le Dieu du christianisme.
Et est-ce que la voix dont vous parlez dans votre dernier ouvrage, enfin celui que nous connaissons comme étant votre dernier ouvrage.
Oui, oui,
c'est ce que vous écrivez abondamment, il doit y avoir encore quelque chose.
Oui, il y a quelque chose en route.
Votre dernier ouvrage, La Voix.
Oui.
Est-ce qu'elle nous conduit vers le Père? Est-ce que nous allons au Père? Est-ce que vous savez, vous, si vous allez au Père?
Oh, savoir, non. C'est quand même au mieux de l'ordre de la foi. Savoir, c'est vraiment beaucoup demandé.
La foi, ça, c'est toujours ce que les prêtres, les théologiens...
servent aux moments difficiles,
oui,
c'est ça.
Hein? Aux pauvres chrétiens qui...
Non, il ne s'agit pas... Non, j'espère que ça n'est pas ça. Si je voulais donner l'espace humain où j'entends le mot foi, c'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui voit s'écrouler l'édifice de son existence, je reprends cette expérience cruciale de tout à l'heure, hein? Je ne dis pas cruciale par hasard, ça a rapport avec la croix, qui va s'écrouler les édifices, eh bien, marche en n'ayant rien d'autre pour assurer sa marche que la foi qu'il doit y avoir un chemin puisqu'il marche. Il ne sait pas où il va. Et c'est une expérience, je pense, que tout être humain fait plus ou moins s'il accède à...
L'expérience d'un échec. L'expérience du à quoi bon.
Par exemple, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais celle-là est assez bonne, si j'ose dire, c'est-à-dire l'expérience de la vanité.
Ou l'expérience qu'on aurait peut-être pu prendre une autre route aussi.
Oui, ou l'expérience de l'échec, l'expérience qu'on aurait pu avoir une vie autre. Alors à quoi bon continuer? Est-ce que tout n'est pas perdu? Est-ce que je ne me suis pas totalement trompé? Le courage qu'il faut à des gens que je connais, qui s'aperçoivent à 55 ans, 60 ans, qu'en un certain sens, leur vie a été construite sur une erreur, pour assumer quand même leur vie et continuer à vivre. Hein? Ce n'est pas de l'ordre du savoir, ça, c'est pas dans les livres. J'ai rien contre les livres, évidemment.
J'espère bien. J'ai envie d'être...
Mais c'est de l'ordre d'une... Même déjà d'une certaine foi. Alors vous me demandiez si cette voie va au Père. Je n'ai pas évoqué cela, sauf un tout petit passage où j'ai dit « jusqu'à murmurer le nom du Père ». Parce que dans ce livre, je suis resté, je crois, très discret.
Très discret.
Très discret.
À tel point que quand je l'ai lu, je me suis demandé, mais... Où est Maurice Pellet? C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs tout à l'heure cette entrevue en disant « Où allez-vous ?»
Je me suis demandé « Où êtes-vous ?»
Oui, « Où êtes-vous ?»
Ben, n'est-ce pas, je crois que le lieu, puisque vous avez fait fortement référence là au Christ, à l'Évangile et même à la théologie, le lieu évangélique, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est le passage même. Le lieu évangélique, c'est le passage, c'est la Pâque, au très grand sens du terme, jusqu'à cette pensée quasi insoutenable et qui a pu donner lieu à des, c'est vrai, à des catastrophes, que ce monde-ci et notre vie, telle que nous pouvons l'apercevoir en ce monde-ci, n'est que passage. Alors ça a pu donner, vous savez, cette conséquence que la terre n'est qu'une vallée de larmes, et puisqu'elle n'est qu'une vallée de larmes, tant mieux si les pauvres sont pauvres, ils n'en ont plus de mérite, enfin des conséquences absolument... déplorable, ou la dénégation du corps, etc. Mais il y a quelque chose de très fort, là. Le lieu de l'homme est passage. Seulement, ça demande, de fait, je crois, ça demande justement une certaine force, que je prétends pas avoir, j'espère, pas trop en manquer, mais une certaine force pour accepter de vivre comme passant. La Bible ancienne...
Mais on a tellement envie de s'accrocher à certains moments.
Oui,
le paysage est beau.
Et puis pourquoi pas?
Comment ça se fait que vous attendez les dernières pages de ce bouquin, La Voix, pour parler de Jésus-Christ?
Figurez-vous que j'ai hésité. Pendant longtemps, j'en parlais au milieu. Puis je me suis dit, voyons, je le laisse, je l'enlève. Et finalement, je me suis dit qu'il ne fallait en parler, il ne fallait le nommer qu'à la dernière page. C'était évident.
Évident pour vous?
Oui, bien sûr.
Pourquoi? Quelle est cette évidence?
Vous savez, des évidences comme ça, elles sont d'abord évidentes. Si on demande des explications...
J'en ai besoin.
Parce qu'il fallait laisser tout se déployer sans que la référence soit affichée. Il fallait aller au bout du dire sans avoir besoin de l'accrocher à ce qui est déjà nommé, déjà su, déjà repéré, déjà expliqué, déjà étiqueté. C'est-à-dire qu'il fallait nommer Jésus-Christ parce que finalement, en un certain sens, ce livre La Voix n'est qu'une façon de dire ce nom-là d'un bout à l'autre, sans que jamais quelqu'un puisse se dire, et pas même moi, bon ben là je sais où je suis.
On en revient à la question de tout à l'heure, où êtes-vous? Et vous me dites, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas où je suis.
Oui, mais vous savez, il y a une tradition puissante de l'inconnaissance. Et de l'inconnaissance, non pas comme ben, je ne sais pas où je suis, mais je ne sais pas qui est Dieu. Je suis un pauvre ignorant qui ne sait pas. Mais comme au contraire, quelque chose de très puissamment positif. Alors là encore, ce sont des références accablantes et je n'oserais pas me les donner, mais la théologie négative, le nuage d'inconnaissance. C'est dans le nuage d'inconnaissance que l'auteur, ce moine inconnu du XIVe siècle, mais qui est quand même un des grands témoins de la tradition chrétienne la plus orthodoxe, fait dire aux disciples « Mais me diras-tu enfin qui il est et comment je puis aller vers lui ?» Et à cela, dit l'auteur du nuage, « Je ne peux te donner qu'une seule réponse, je n'en sais rien. » Et je crois que pas mal des malheurs de la foi chrétienne chez les gens, comme on dit, vient de ce que, osons le dire, il y a eu de la part des maîtres à penser, des gens qui savaient quand même un certain mépris, animé des meilleures intentions, c'est pour ne pas faire de tort, mais finalement le mépris coûte toujours très cher. On a présenté un peu la foi chrétienne comme si c'était un savoir sur Dieu. On sait où on est, on sait Dieu, on sait comment s'est fait Dieu à l'intérieur. Alors, ultimement, c'est un mystère, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas. Mais on sait quand même, on vous explique comment ça marche. Or, il y a quelque chose à propos de Dieu qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas de chemin vers Dieu d'une certaine façon. Enfin, il y a une inconnaissance radicale de nous vis-à-vis de Dieu, qui n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu soit dévoilé et manifesté à nous dans le Christ, parce que ce qui nous est manifesté dans le Christ ne supprime pas cette inconnaissance.
Savez-vous que tout ce que vous dites est très beau, je vous le répète, c'est très poétique, mais il me semble que ça ne nous facilite pas la tâche d'être chrétien ou d'adhérer au christianisme.
Si.
Il me semble que le christianisme devient une affaire très haute, très difficile et accessible finalement qu'à quelques-uns.
Vous comprenez, l'évangile c'est très haut et très difficile. Hein. Moi, chaque fois que je le rouvre et que j'essaye de le lire, j'ai l'impression de boire de l'alcool pur. Et j'ai du mal à continuer. Je ne sais pas comment vous faites, si vous le lisez. Hein. Mais ça me donne ce sentiment-là. C'est très haut et très difficile. Si vous lisez le sermon sur la montagne, elle est élevée. Hein. Mais ce qui est important, enfin, c'est ce que j'essayais d'appeler coïncidence paradoxale. Alors là, c'est le langage un peu jargonnant. C'est que, mais j'en parle aussi dans la voix, beaucoup de ça. C'est que cette hauteur coïncide avec... bon. La douceur et bénignité de la tendresse. Il y a place pour tout le monde.
Y compris pour les petits.
Ah ben surtout. Enfin, c'est pour l'évangile.
Qui,
hein.
Pour ceux qui ne peuvent pas aller haut, ceux qui manquent de souffle.
Mais qu'est-ce que c'est qu'aller haut?
Alors qu'est-ce que... Oui. Vous dites il y a la hauteur, c'est très haut. Quand je bois, quand j'ouvre l'évangile, c'est comme si je buvais de l'alcool pur. Donc ça étouffe. Ceux qui n'ont pas de souffle.
Mais ce qui est enivrant, hein, le mot ivresse c'est d'ailleurs dans le Nouveau Testament à propos de l'Esprit-Saint, hein, ce qui est enivrant ou ce qui est presque effrayant par sa hauteur, on sait ce que c'est quand on peut le manger et le boire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des références très fortes, ça, au christianisme. Quand on peut le manger et le boire, c'est-à-dire se nourrir et savoir que ça vous nourrit, que ça vient dans votre corps à vous, et qu'il est toujours possible d'avoir un chemin. Si vous voulez, le haut et le bas, ça va ensemble. Il faut sortir de nos habitudes mentales. Vous savez, le grand problème du chrétien contemporain, c'est la logique.
Mais je vais aller plus loin.
C'est sa logique, c'est-à-dire sa manière de raisonner, de couper, etc.
Je vais aller plus loin. Vous savez très bien, comme moi, qu'il y a actuellement des gens qui, justement, adhèrent à cette force, à cette violence. En tout cas, qui disent adhérer à cette violence. Et je veux les croire. Et qui disent, mais je ne peux plus demeurer, moi, chrétien, à côté de tant de médiocrité, de ce que je trouve aujourd'hui dans les églises, etc. Et qui, de ceux qui se nomment chrétiens, et qui sont finalement, non pas des gens enivrés, mais des gens finalement bien raisonnables et bien tièdes. Comment cela peut-il coexister?
Mais c'est un problème, c'est plus qu'un problème, enfin disons que c'est un problème très grave, qui n'est pas récent d'ailleurs, mais qui touche à la nature de ce qu'on peut appeler l'Église. C'est-à-dire que je crois que ce qui disparaît dans un constat de ce genre, c'est une certaine image de l'Église qui est de la même famille que l'image de perfection dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, l'Église serait la société des gens bien. L'Église serait une sorte de grand appareil social où tout serait en place, où il n'y aurait pas de problème du côté de la vérité, on sait ce que c'est. Pas de problème du côté des mœurs, elles sont bonnes sauf quelques pécheurs qui vont à confesser, donc ça rentre dans l'ordre. Et pas de problème du côté de l'unité, puisque nous sommes tous unis par la charité et la grâce du Christ, tout va bien. Mais il suffit de lire le Nouveau Testament, par exemple la première épître aux Corinthiens, pour s'apercevoir qui se disputait, qui se saoulait à l'Eucharistie, et que Paul était obligé, en public, de dire que la fréquentation des prostituées n'était pas une activité chrétienne. Dans le texte qui passe pour un des textes les plus anciens du Nouveau Testament lui-même. Alors, je crois qu'il y a une image idéalisée de l'Église qui ne résiste pas à l'examen historique ou à l'examen contemporain. Mais l'Église, c'est pas ça. Je crois que ce qui est en cause, là, c'est l'Église, qu'on entend par l'Église. Il y a dans l'Église quelque chose de l'ordre du passage aussi. Quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité, de la crise permanente. Je pense que une Église concrète est une société critique, c'est-à-dire en crise, et amené constamment à faire sa propre critique, à la fois par les instruments de critique qui lui sont offerts, et qu'elle doit savoir accepter, critique venant des sociologues, des psychologues,
des théologiens, dont Maurice Bellet.
Non. Et puis critique venant de l'Évangile, qui pour l'Église est la plus dure, et qui lui reste constamment présente à l'esprit.
Maurice Bellet, je vous remercie.
Il reste quelques questions en suspens.
Beaucoup.
Rappelons que le dernier livre de Maurice Bellet, La Voix, est paru au Seuil. Ses autres ouvrages sont parus chez Desclées de Brouwer. Ainsi, Théologie Express, qui est une approche nouvelle de réflexion religieuse. Le Dieu pervers, dont Maurice Bellet nous a longuement parlé au début de cette émission. Les survivants, paru dans l'excellente collection Voix ouvertes chez Gallimard. Naissance de Dieu, une présentation neuve du christianisme. La peur ou la foi, une analyse du prêtre et son malaise grandissant. Le sens actuel du christianisme, avec ses dimensions et ses implications, essai d'une critique de la foi ou la fonction critique dans la certitude religieuse, et Ceux qui perdent la foi, ces quatre derniers titres datant déjà de plus de 10 ans. Maurice Bellet collabore constamment à la revue Christus, une des plus importantes revues de spiritualité, qui est publiée à Paris par les Jésuites.